Bernadette Chamonaz, bonjour.
Bonjour, les Pyrénées, nouvelle route des migrants. Les interpellations ont triplé en un an. Point chaud, Irun, Hendaï. France Inter s'y est rendu, reportage dès le début de ce journal. Brexit menacé, Theresa May en appelle au peuple. Parole de Britanniques qui vivent une crise politique historique. Gilets jaunes, les autorités fixent la ligne rouge. Sécurité, tolérance zéro. Nous verrons aussi comment les entreprises se préparent avant un mouvement inédit à tout point de vue. Politique, syndicat déstabilisé. C'est d'ailleurs un leader syndical que vous recevrez à 8h20, Nicolas.
Oui, on va voir si Philippe Martinez est déstabilisé, le secrétaire général de la CGT, dans le grand entretien du 7-9 01 45 24 7000 pour toutes vos questions.
Dans l'actualité encore, Tariq Ramadan libéré sous contrôle judiciaire après 3 refus. Pourquoi cette fois ? Explication. Effroyable incendie en Californie, 600 personnes désormais portées disparues. Le permis de louer, une solution contre les logements indignes, expérience concluante à Mantes-la-Jolie. Et puis un coup de marteau à 90 millions de dollars. Et David Hockney est devenu l'artiste vivant le plus cher de l'histoire.
France Inter.
Migrants, venir coûte que coûte en Europe. L'Italie est fermée, alors la nouvelle route passe par les Pyrénées. Venus d'Afrique, ces hommes, ces femmes passent par le Maroc, l'Espagne, où les entrées sont en hausse de 150% ces derniers mois, puis la France, d'où certains espèrent aller encore plus au nord, vers l'Angleterre ou la Belgique. Entre Espagne et France, un point chaud, le point de passage entre Irun, côté espagnol, et Hendaï, côté français. C'est là que s'est rendu pour France Inter Jade Péchiras.
Il est 6h du matin. Quelques silhouettes traversent le pont Saint-Jacques. D'un côté l'Espagne, de l'autre la France. La police patrouille régulièrement, mais cette fois-ci les silhouettes passent entre les mailles du filet. Quelques minutes plus tard, devant la gare d'Hendaï, elles montent dans le bus 316, celui qui doit rejoindre Bayonne. Mais 3 arrêts plus loin, la police, à nouveau, qui arrête le véhicule. Deux hommes assis au fond du bus sont forcés de descendre. Le chauffeur, lui, commence à avoir l'habitude.
Tous les jours, on a des migrants qui essaient de passer, ils essaient.
Cet épisode, Diallo, 22 ans, l'a déjà vécu à 5 reprises.
On m'a attrapé, mais fait retourner jusqu'à la police.
Il explique que la police l'a raccompagné sur le pont, qu'il n'a plus d'argent pour payer un nouveau ticket de bus. S'il a fui la Guinée-Conakry, c'est à cause de la violence.
C'est très dangereux.
Il est arrivé à Irun il y a 3 semaines.
C'est dur, ouais.
Comme lui, ils sont une centaine en moyenne bloqués à Irun, aidés par des associations dont Yosune et Amaya font partie.
Tout à coup, on a commencé à voir arriver beaucoup de migrants.
C'est logique. À mesure qu'ils ferment des passages, ils changent de route. Ce qui se passe au niveau de l'Europe, c'est une honte.
En 2017, il y avait 5700 interpellations.
Frédéric Ivanier dirige une patrouille à la police aux frontières. Il est aussi délégué à l'UNSA Police.
Et nous sommes déjà à pratiquement 16 000 interpellations. Vous les renvoyez en Espagne et puis l'après-midi ou le soir, vous les retrouvez encore dans les locaux de la police de la PAF.
Il affirme que dans l'immense majorité des cas, la nuit notamment, la police espagnole ne se déplace même plus pour venir chercher les migrants raccompagnés à la frontière.
Et ce périple, nous le suivons bien sûr sur France Inter dans le journal de 13h. Nous retrouverons Jade Péchiras à Bayonne. Bayonne qui est devenue ville d'accueil pour ces migrants.
Il est 8h04. La justice décide de remettre Tariq Ramadan en liberté.
Alors précisons tout de suite que l'islamologue n'est pas encore sorti de prison. Il est à l'hôpital pénitentiaire de Fresnes. On sait qu'il souffre de sclérose en plaques. Il devrait sortir dans les prochaines heures ou les prochains jours après le versement d'une caution de 300 000 euros. Il n'a pas le droit non plus de quitter la France. Sarah Guibaudot, bonjour.
Bonjour.
Alors, reste que la justice a accepté sa demande de remise en liberté. Pourquoi cette fois après 3 refus ?
La Cour d'appel de Paris a pris donc des garanties pour qu'il reste à la disposition de la justice. Je vais rester en France et défendre mon honneur et mon innocence, a lancé Tariq Ramadan hier à l'audience. La Cour a dû estimer qu'il n'y avait plus de risque de pression sur les plaignantes. Beaucoup d'investigations, des confrontations ont été faites. Écoutez Emmanuel Marcini, l'avocat de Tariq Ramadan. Joint par Thibault Lefèvre.
Je suis bien évidemment extrêmement satisfait de cette décision qui est en tout point conforme finalement au dernier développement de ce dossier qui démontre de manière éclatante que les accusations portées contre M. Ramadan sont totalement fausses et mensongères. Donc la première des priorités sera pour lui de se soigner. Et en cela, j'en suis extrêmement satisfait.
La sclérose en plaques dont souffre Tariq Ramadan a sans doute pesé et c'est pourquoi Éric Morin, l'avocat de Christelle, l'une des plaignantes, s'attendait à cette décision.
Il est évident qu'après 9 mois de mensonges où il a égaré la justice, le fait d'être revenu à travers des aveux sur ses relations avec les deux plaignantes a nécessairement joué dans cette remise en liberté. Pour nous, ça ne change pas grand-chose. Le combat continue. On ne lâchera rien avec ma cliente.
Tariq Ramadan reste mis en examen pour viol. Lui parle finalement de relations sexuelles consenties. Sa remise en liberté ne signifie pas que la justice a tranché.
Merci Sarah Guibaudot. Georges Tron et son ex-adjointe Brigitte Gruel ont été tous les deux acquittés des accusations d'agression sexuelle et de viol portées contre eux par deux anciennes employées de la mairie de Draveil. Pas de preuve qu'il y ait eu contrainte, a estimé la cour d'assises de Bobigny. Le parquet avait demandé jusqu'à 6 ans de prison ferme. Il a maintenant 10 jours pour faire appel.
Il est 8h06. Gilets jaunes à la veille d'une mobilisation inédite. Les autorités fixent la ligne rouge.
Et oui, pour la sécurité, ce sera tolérance zéro. Aucun blocage ne sera accepté. Aucune action sauvage, entre guillemets. Toute action devra être déclarée en préfecture. Pour l'instant, sur les 1500 annoncés sur les réseaux sociaux contre la hausse des carburants, seule une centaines l'ont été déclarés. En Seine-Maritime, où une cinquantaine de points de blocage ou d'action sont recensés, Benoît Lemaire, le directeur de cabinet de la préfète, prévient au micro d'Antoine Sabag.
Alors la ligne rouge, elle est très simple, c'est la sécurité de nos concitoyens. Et la sécurité, elle s'entend par bien évidemment la sécurité sanitaire. Mais la sécurité sanitaire, c'est pas simplement quelqu'un qui passe à un camion de pompiers qui passe avec un blessé dedans. C'est pas simplement un gyrophare bleu. La sécurité sanitaire, c'est aussi des personnes qui doivent aller se faire dialyser. La sécurité sanitaire, c'est aussi une femme qui doit accoucher. Et puis la sécurité, c'est aussi la capacité pour des gens qui vont travailler dans des sites sensibles, dans des usines sensibles, où il y a absolument besoin d'eux en termes de sécurité, de pouvoir rallier leur lieu de travail. Et ça, il faut que ce soit bien compris. N'oublions pas qu'en Seine-Maritime, on est un département où il y a énormément d'industries, et d'industries qui nécessitent évidemment que des spécialistes y travaillent. La sécurité, donc, elle est multiforme. Et c'est la raison pour laquelle il est vraiment important qu'il puisse y avoir un dialogue sur les barrages, de façon à ce que les gens qui doivent passer pour des raisons de sécurité puissent passer.
Alors si la colère des gilets jaunes contre les hausses de carburant affiche la couleur, quelle en sera l'ampleur? C'est la grande inconnue pour les autorités, mais aussi pour les entreprises. C'est ce que vous avez constaté, Emma Sarango, dans le Nord.
Et notamment l'usine Toyota d'Onnan dans le Valenciennois, un site généralement fermé le samedi. Mais ce 17 novembre, justement, la direction avait prévu depuis plusieurs semaines une matinée de travail exceptionnelle, regrette Éric Moyer, le directeur de la communication.
On parle d'une équipe additionnelle qui avait été prévue pour répondre à une demande européenne de Toyota Yaris en croissance. Il nous a semblé qu'il n'était pas raisonnable de demander à peu près 1000 salariés de venir travailler samedi matin, alors qu'ils allaient potentiellement rencontrer des difficultés pour pouvoir rentrer chez eux. L'impact économique est neutre, puisque donc il s'agit de reporter une équipe de production.
Plus d'incertitudes du côté de PSA Peugeot Citroën. Demain, ce sont 700 salariés qui sont attendus dans les usines du Valenciennois. Impossible donc d'arrêter par précaution la production, puisqu'il faut satisfaire les commandes. Alors la direction croise les doigts en attendant de constater l'ampleur du mouvement. Du côté des associations, la Ligue de football des Hauts-de-France a pris les devants. Elle a d'ores et déjà annulé 160 rencontres jeunes prévues demain, sans compter les matchs des 7 districts de la grande région. On a joué la prudence aussi à l'hippodrome de Marc, où les courses prévues demain sont toutes reportées à dimanche.
Information France Inter, Pascal Canfin, ancien ministre, ancien eurodéputé Europe Écologie Les Verts et actuel directeur du WWF France, ne sera pas tête de liste de La République En Marche aux européennes. L'Élysée lui avait fait cette proposition, il l'a refusée. Pas assez de garanties sur l'avenir du nucléaire en France, notamment le nombre de fermetures de réacteurs. Il ne sera ni tête de liste, ni d'ailleurs sur la liste. À l'étranger, le bilan des incendies au nord de la Californie apparaît de plus en plus effroyable. 66 morts et jusqu'à 600 disparus, vient de dire le shérif de Paradise, la ville en grande partie détruite par les flammes. Écoutez Cory Onea.
C'est une nouvelle fois à moi de remplir cette triste mission, de vous dire que nous venons de retrouver 7 corps supplémentaires dans les décombres. D'autre part, le nombre de personnes que l'on recherche qui sont disparues est maintenant de 631, c'est-à-dire 500 de plus qu'hier. Il faut que je vous explique comment en une nuit ça a pu changer autant. D'une part, les gens continuent à nous appeler, donc notre standard récolte de nouvelles informations, mais d'autre part, on travaille aussi sur tous les appels d'urgence qu'on a reçus et enregistrés la semaine dernière au plus fort de la catastrophe. Les gens appellent les secours, donc on a cette immense base de données et d'informations qu'on continue d'explorer.
Une conférence de presse du shérif de Paradise à laquelle assistait notre envoyé spécial Grégory Phillips. Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, qui a publié de nombreux documents secrets américains en 2010, a été inculpé aux États-Unis. C'est ce qu'annonce Wikileaks. On ne connaît pas les chefs d'accusation. En Grande-Bretagne, Theresa May en pleine tempête politique, accusée d'avoir cédé face à l'Union européenne après l'accord trouvé avec les Européens sur le Brexit, démission de ministres en série, sous la menace aussi d'un vote de défiance de son propre camp. Alternative, selon elle, soutenir l'accord, pas de Brexit du tout, ou alors sortir sans accord. C'est ce que craignent les Londoniens que vous avez rencontrés, Élise Delève. Ils en veulent tout particulièrement à la Première ministre.
Donna ne prend pas de gants avec sa Première ministre.
She's very weak. No faith. Don't like her.
Elle est très faible, elle n'a pas de foi, je ne l'aime pas. Pour cette thérapeute pro-Brexit, Theresa May n'a pas assez soutenu les intérêts du Royaume-Uni face à Bruxelles.
Tout le monde a peur parce que nous n'avons pas de dirigeants assez forts pour nous dire « Nous allons faire ça, voici ce que nous avons à vous offrir, et si vous n'en voulez pas, eh bien tant pis, on le fera quand même. » Je pense que les gens auraient alors plus de respect.
Gillian, qui revient de vacances à Paris, est un peu plus indulgente. Mais elle réclame tout de même la démission de Theresa May.
Je pense qu'elle fait du mieux qu'elle peut, étant donné que tous ceux qui ont lancé le Brexit ne sont plus au pouvoir. Ils l'ont laissée seule dans cette situation. Je pense que c'est le bon moment pour qu'elle en sorte. Elle doit démissionner et l'idée du Brexit doit disparaître avec elle.
Gillian fait partie de la petite majorité de Britanniques qui demandent un second référendum. La démocratie, c'est aussi pouvoir changer d'avis, explique la jeune femme. Mais sur cette question, Theresa May reste ferme. Tant qu'elle sera au pouvoir, il n'y aura pas de nouveau vote sur le Brexit. Londres, Élise Delève, France Inter.
Et maintenant, Theresa May a moins d'un mois pour convaincre les parlementaires qui voteront pour ou contre cet accord début décembre. Retour en France 10 jours après l'effondrement de plusieurs immeubles à Marseille. La question du logement indigne est toujours au cœur du débat. La Confédération nationale du logement demande une véritable réponse des pouvoirs publics, notamment la généralisation d'un outil qui marche, le permis de louer. Il a été mis en place dans une trentaine de municipalités, notamment Mantes-la-Jolie, où vous êtes rendue, Claire Chaudière.
Depuis juillet dernier, Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, expérimente le permis de louer, obligation pour les propriétaires sous peine d'amende de faire valider la mise en location des logements.
On est en plein centre-ville.
Voilà, plein centre-ville. On voit effectivement que les façades sont tout à fait correctes, alors qu'on a de réelles surprises, quoi, quand on pousse les portes.
Jean-Louis Julien fait partie des inspecteurs. Chaque visite permet d'avoir un regard sur les appartements et sur les parties communes des copropriétés. Voilà. Cet immeuble a fait l'objet d'un signal.
On a des fissures apparentes. C'était vraiment très très dégradé. Des fils électriques qui couraient un petit peu partout.
Premier bilan, 140 dossiers examinés, 7 visites, un refus de permis et un arrêté d'insalubrité engagé. Le maire Raphaël Coignet veut aussi accélérer les procédures.
On a des taux d'impayés de charges extrêmement importants. Il n'y a qu'une façon d'agir, il faut qu'on puisse sortir de ces copropriétés beaucoup plus rapidement les mauvais payeurs. Moi j'ai des copropriétés où les gens sont en impayés de charges depuis 15 ans.
Pour la Confédération nationale du logement, les réponses politiques doivent être à la hauteur des enjeux, et dit Jacques Marson, président.
Que le permis de louer ne soit plus optionnel, redonner aussi des moyens aux mairies. On ne peut pas continuer à mourir d'habiter en France. Et donc ce ne sont pas des mesurettes ou des incitations fiscales. Ce qu'il faut, c'est un électrochoc.
Message qui sera porté à nouveau la semaine prochaine devant les maires de France réunis en congrès.
Contraste avec le monde de l'art en folie, un coup de marteau à 90 millions de dollars qui envoie le Balloon Dog de Jeff Koons au rayon des soldes et place David Hockney comme artiste vivant le plus cher de l'histoire. Loïc Loury.
Une piscine bleu turquoise, un homme sous la surface de l'eau et un second au sec, la tête penchée vers le nageur. 2 mètres sur 3 environ, il faut beaucoup de place pour accrocher ce David Hockney et des poches très profondes.
Sur ma droite à 80 millions de dollars, mesdames et messieurs, le Hockney est adjugé.
Total, avec les frais et commissions, 90 300 000 dollars. David Hockney, 81 ans, devient l'artiste vivant le plus cher de l'histoire, loin devant Jeff Koons. Le peintre britannique est connu pour ses doubles portraits et pour ses motifs aquatiques. Cette piscine et ses deux personnages est son œuvre la plus emblématique. Loïc Gouzère est expert en art contemporain chez Christie's.
C'est un prix qui est fantastique pour un tableau fantastique. C'est un tableau que vous pouvez montrer à des gens qui connaissent presque rien à l'art et qui vont dire « mais j'ai déjà vu ça quelque part ». Il a cette instantanéité, cette qualité qui n'est pas reprogrammable par l'intelligence artificielle ou quoi que ce soit. Et c'est ça qui rend ce tableau spécial, ce va-va-voum qu'on ne peut pas quantifier.
Mais toute grandiose que soit cette toile, son prix interroge, comme souvent sur un marché de l'art jamais rassasié. David Hockney, en 1972, et après 6 mois de travail, avait vendu sa création moins de 20 000 dollars. Aujourd'hui, elle en vaut 5 000 fois plus. New York, Loïc Loury, France Inter.
Alors un tableau à 90 millions de dollars, il n'y a que les footballeurs qui peuvent se le offrir. En tous les cas, les Bleus, ils ont intérêt à le mériter. Ce soir, ils sont face aux Pays-Bas et le numéro 1 du groupe. Voilà l'objectif fixé par Didier Deschamps pour se qualifier pour la finale de la Ligue des Nations.
Bernadette Chamonaz, merci.